Merci d'écouter RFI. Il est 22h à Paris et Amsterdam, 21h en temps universel.
Martin Guèze.
À la une, ces condamnations unanimes après une nuit de violence à Amsterdam, violence subie par les supporters du club israélien du Maccabi Tel Aviv. Nombre d'entre eux sont rentrés à Tel Aviv via des avions spéciaux affrétés par Israël. À Budapest, suite et fin du sommet informel du Conseil européen, sans grande décision majeure, mais avec une note d'intention commune des 27. En France, la lutte contre le trafic de drogue est relancée par le nouveau gouvernement. Alors qu'en football, les fans de l'OM passent pour l'instant une mauvaise soirée. Marseille menait 3-0 sur sa pelouse par Auxerre en Ligue 1. Vous passerez en revanche une bonne soirée à notre écoute, car dans 10 minutes, place au Café des Sports avec Annie Guesny.
RFI.
Un antisémitisme répugnant, des événements terrifiants. Voilà comment le Premier ministre canadien Justin Trudeau qualifie les heurts en marge de la rencontre Ajax-Maccabi Tel Aviv en Ligue Europa hier soir à Amsterdam. S'ajoutant aux nombreuses condamnations et réactions internationales, dans la même ligne que celle d'Emmanuel Macron, d'Olaf Scholz ou de l'ONU, le président américain Joe Biden parle lui d'attaques abjectes, rappelant les moments les plus sombres de notre histoire. 62 personnes ont été arrêtées et 5 ont été brièvement hospitalisées. Après plusieurs incidents violents contre des supporters israéliens, certains ont été roués de coups, d'autres jetés dans le canal. La police qui rapporte des violences des deux côtés, pointant également la destruction d'un taxi par les partisans du Maccabi, ainsi que l'incendie d'un drapeau palestinien ou encore des chants hébreux hostiles. La maire de la ville néerlandaise, Femke Halsema, parle elle d'explosion d'antisémitisme et exprime sa honte lors d'une conférence de presse où les autorités ont rappelé que les premiers incidents remontent à mercredi. Correspondance de Pierre Benazé.
Le dispositif policier n'a pas suffi à empêcher les violences à l'encontre des supporters du Maccabi, pris à partie par des jeunes pro-palestiniens, certains poursuivis à pied ou en scooter et roués de coups, un autre forcé de crier « Palestine libre » ou de montrer son passeport, celui-là jeté dans un canal, celui-ci percuté par une voiture. Les torts initiaux sont cependant partagés. Mercredi soir, des supporters israéliens avaient brûlé un drapeau au centre d'Amsterdam, mais aux provocations verbales et symboliques des supporters israéliens, les jeunes des cités, comme les décrit la mairesse d'Amsterdam, Femke Halsema, ont choisi, eux, de répondre par la violence physique. Sur 62 personnes arrêtées, 10 sont toujours en détention et la police annonce avoir commencé l'identification des auteurs des violences. Le parquet promet des poursuites exemplaires. Le Premier ministre néerlandais, Dick Schoof, garantit que les Pays-Bas n'accorderont aucune indulgence. La mairie met en place des mesures supplémentaires à cause des commémorations de la Nuit de Cristal ce samedi, avec interdiction de manifester, renforcement du dispositif policier et autorisation de fouilles préventives. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Et lui n'était pas présent pour cette conférence de presse, mais s'est exprimé depuis Budapest en Hongrie, où sont réunis les chefs d'État européens. Dick Schoof, le Premier ministre des Pays-Bas, a également réagi aux violences d'hier soir.
C'est une attaque antisémite terrible, intolérable. Nous poursuivrons les coupables. Et j'ai profondément honte que cela puisse arriver aux Pays-Bas en 2024. Je condamne ces actes. Ce qui est arrivé hier soir est terrible, épouvantable. Mon message à Israël, c'est que j'espère que les Israéliens continueront de venir aux Pays-Bas parce qu'on fait tout ce qu'on peut pour les faire se sentir en sécurité. Il y a toujours des problèmes autour des matchs de foot. Et quand l'équipe d'Israël joue, la police y accorde une attention particulière.
Dick Schoof, Premier ministre des Pays-Bas depuis Budapest. Un premier avion envoyé par Israël a lui évacué des supporters israéliens d'Amsterdam jusqu'à Tel Aviv ce soir. Des fans du club qui viennent d'atterrir. Au total, l'État hébreu a envoyé 4 avions pour rapatrier ses citoyens. À Gaza, à présent, la grande majorité des morts sont des femmes et des enfants, affirme ce vendredi l'ONU, près de 70% précisément. Et ce sur la période allant de novembre 2023 à avril 2024, après une minutieuse vérification d'un décompte partiel des victimes de la guerre menée par Israël contre le Hamas. Le nouveau rapport du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme détaille de nombreuses violations du droit international qui pour beaucoup sont assimilables à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et peut-être même un génocide selon le rapport. Près de 43 500 personnes ont été tuées à Gaza selon le ministère de la Santé du territoire palestinien depuis le 7 octobre 2023. Au Liban, 3 personnes ont été tuées lors de frappes israéliennes sur la ville de Tyr, tandis que 30 autres ont été blessées, selon un bilan préliminaire du ministère libanais de la Santé. Par ailleurs, l'Agence nationale d'information libanaise a affirmé que l'armée israélienne avait dynamité plusieurs maisons dans 3 villages du sud du pays et avait effectué plusieurs bombardements aériens. La FINUL, Force des Nations Unies, accuse elle à nouveau Israël d'avoir endommagé l'une de ses positions dans une action décrite comme délibérée et directe. Enfin, le Hezbollah a lui indiqué avoir tiré des missiles sur une base aérienne au sud de Tel Aviv.
RFI.
RFI, 16h05 à Washington, aux États-Unis. Le nouveau président Donald Trump, élu ce mardi, n'a pas perdu de temps. et a procédé ce jeudi à sa première grande nomination ce vendredi, même en choisissant une femme, Susie Wiles, au poste très stratégique de chef de cabinet, l'une des architectes de la campagne républicaine qui deviendra à 67 ans la première femme de l'histoire à occuper ce poste, a souligné le futur 47e président américain, qui prêtera serment le 20 janvier prochain. Les États-Unis, on apprend via l'AFP que le milliardaire Elon Musk, grand soutien de Donald Trump, a participé mercredi à l'appel entre le nouveau président américain et le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky. Donald Trump qui aurait passé le téléphone à Elon Musk, qui s'est ensuite brièvement entretenu avec le chef d'État ukrainien. Au Botswana, à présent, le nouveau président Duma Boko a prêté serment ce vendredi, 10 jours après sa victoire surprise lors des élections générales. Sa formation politique, l'UDC, l'a emporté face au BDP, parti au pouvoir, aux commandes depuis 60 ans, marquant une alternance inédite dans ce pays d'Afrique australe. À 54 ans, l'homme d'État a été investi dans le stade national devant plusieurs chefs d'État, comme ceux de Madagascar, de Namibie, de Zambie ou du Zimbabwe. Et puis retour en Europe, à présent, l'actualité du vieux continent, c'est aussi ce Conseil européen réuni à Budapest, avec aujourd'hui au menu des discussions en Hongrie le rapport Draghi pour la compétitivité du vieux continent. L'ex-chef du gouvernement italien Mario Draghi qui promet une lente agonie européenne sans investissement massif dans la recherche ou l'innovation. Un Conseil européen informel dans la capitale hongroise qui n'a pas abouti à des décisions contraignantes, mais qui s'est conclu sur une déclaration d'intention commune. Envoyé spécial de RFI à Budapest, Carlotta Morteo.
C'est un texte à minima qui aurait perdu en substance. Il est passé de 9 à 4 pages. Viktor Orban, qui présidait ce sommet informel, a constaté l'évidence, je cite, sur la compétitivité. On est tous d'accord, personne ne veut gérer le déclin de l'Europe. Mais de là à être d'accord sur les remèdes, le chemin est encore long. Le président du Conseil, Charles Michel, qui s'apprête à finir son mandat, a toutefois estimé que la teneur des conversations aujourd'hui montrait un certain sens de l'urgence d'agir. En tout cas, parmi les principales propositions, la déclaration de Budapest des 27 mentionne le fait que l'UE prévoit un choc de simplification pour réduire de 25% la bureaucratie pour les entreprises. La Commission s'engage aussi à présenter une politique industrielle dans les prochains mois. Ursula von der Leyen a proposé de mettre sur pied un régime spécial pour les start-up innovantes qui permettrait à plus de 180 000 PME européennes d'accéder au marché unique de façon simplifiée. Et un objectif a été fixé, celui d'atteindre 3% du PIB d'investissement dans la recherche d'ici 2030. Enfin, il semble que les dirigeants avancent sur l'idée de construire une union de l'épargne et des investissements pour permettre d'utiliser les économies des Européens pour investir dans des secteurs d'avenir. Carlotta Morteo, Budapest, RFI.
Et on termine ce journal en France où la lutte contre le trafic de drogue est renforcée. Plusieurs nouvelles mesures ont été annoncées avec un renforcement des effectifs ou la création d'une cellule de coordination nationale. Elle sera composée de magistrats et de représentants d'autres ministères concernés, comme le ministère de l'Intérieur ou des Finances, composée aussi d'analystes criminels. Une initiative saluée par Aurélien Martini, vice-procureur du tribunal judiciaire de Melun, secrétaire adjoint de l'Union syndicale des magistrats, même s'il reste prudent.
C'est une annonce très intéressante. C'est une matière dans laquelle il y a besoin de coordination, de mise en synergie des différents acteurs qui travaillent sur le terrain. Et donc c'est plutôt quelque chose qui va dans le bon sens, c'est-à-dire quelque chose que nous avions proposé et demandé. La petite chose qu'il faut sans doute préciser, c'est que tout cela ne peut pas se faire évidemment à moyen constant, parce que si vous prenez des effectifs pour du temps de travail magistrat pour coordonner, c'est des effectifs que vous allez retirer du terrain. Et si vous retirez de la force sur le terrain pour la mettre dans une force de coordination, alors vous affaiblissez quand même l'action de terrain. Donc il faut que tout cela, sous peine de rester de la communication, ne se fasse pas à effectif constant, c'est très important. Nos collègues marseillais devant la commission parlementaire sénatoriale avaient tiré la sonnette d'alarme. Ils avaient d'ailleurs été un peu grondés pour cela, mais je crois qu'ils avaient dit la vérité. Nous sommes en train de perdre la guerre, et cette guerre-là, nous ne pouvons pas la perdre. Donc il faut la mener avec des moyens et avec des outils efficaces.
Des propos recueillis par Olivier Sherman du Service France de RFI. Olivier Sherman, grand fan de l'Olympique de Marseille, qui ne doit donc pas passer une bonne soirée pour l'instant, puisque l'OM est actuellement mené 3-0 sur sa pelouse par la JOCR. En ouverture de la 11e journée de Ligue 1, on joue l'heure de jeu maintenant. Marseille qui était déjà mené sur le même score à la maison. C'était lors de son dernier match et c'était face au PSG. Les Auxerrois qui confirment pour le moment leur bonne forme du moment, justement, avec des buts du Malien Lassine Sinayoko et un autre but de l'Ivoirien Ahmed Junior Traoré. Il reste donc une petite demi-heure de jeu. Voilà, c'est la fin de ce journal. On va continuer à parler football. Moi, je vous rappelle que demain, la 11e journée de Ligue 1 continue avec Strasbourg-Monaco, Lens-Nantes ou encore Angers-PSG. Mais pour l'heure, c'est le Café des Sports avec Annie Gasnier. Elle est en compagnie de Rémine Gonneau, de Xavier Barré et du Romain Gara. Excellente soirée. À notre écoute.